Vous êtes à l'écoute de Radio Intervalle et pour notre série d'émissions des animaux et des hommes, nous parlerons ces prochaines semaines des ABC de la biodiversité et ce sera en compagnie d'Aymeric Sulman. Aymeric Sulman, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
De quelques souvenirs naturalistes de l'année 2018 et notamment des découvertes qu'on peut faire nous-mêmes en tant que naturalistes et qui maintiennent notre curiosité active en permanence. Et cette année, à l'occasion d'une animation sur la commune des Jeunes Lacs, sur les coléoptères. On a été amené à d'abord faire une animation de grand public, deux jours, pour observer les coléoptères. Et c'est toujours un petit peu délicat de faire ces animations parce que les coléoptères dans la forêt, eh ben, ils apparaissent pas au grand jour comme ça. On les voit pas en fait, on les soupçonne pas. Et nous, on a une méthode de prospection qui consiste à poser des pièges. Mais qui est, d'un point de vue animation, c'est délicat de montrer qu'on est obligé de tuer les animaux pour les identifier. Et donc, on essaie donc de les chercher sous une écorce, sous un bout de bois. On en trouve quelques-uns. Et je me suis dit, mais quand même, où est-ce qu'elles sont toutes ces bêtes ? Qu'est-ce qu'elles font deux jours ? On ne les voit jamais.
Aymeric, est-ce qu'on peut donner une définition sur les coléoptères ? Je vois que nombre d'espèces, c'est assez important d'ailleurs en Cévennes.
Mais les coléoptères, pour les définir, le mieux c'est d'en citer quelques-uns que tout le monde connaît. La coccinelle est un coléoptère, le scarabée est un coléoptère, la cétoine que vous avez souvent dans les iris est un coléoptère, le scolite qui mange le bois mort dans les forêts est un coléoptère. Il y en a énormément en fait. Le balanin qui s'occupe des noisettes ou des châtaignes, c'est un coléoptère. Donc c'est un groupe d'insectes qui a des élytres un peu rigides, souvent brillantes, sous lesquelles il y a les ailes. Et c'est des insectes assez remarquables et surtout extrêmement diversifiés. Ça fait partie du groupe des insectes à la fois le plus étudié, mais aussi le plus diversifié en nombre d'espèces. Rien qu'en France, sur les 50 000 espèces d'animaux connus, il y a essentiellement des insectes, plus de 10 000 coléoptères. Donc c'est très diversifié. Et dans le parc des Cévennes, on ne connaît pas encore l'ensemble des coléoptères présents, mais on s'y attelle. Et on s'apercevait, depuis qu'on étudie les espèces de coléoptères, qui sont finalement assez difficiles à observer. Et il a fallu l'intervention d'un spécialiste qui nous a dit « Mais il n'y a rien de plus facile pour les observer, les coléoptères. Vous sortez de nuit avec une lampe torche dans la forêt. » Et là, effectivement, on a fait cette opération-là. Et là, j'ai redécouvert la vie la nuit dans la forêt. Et c'est effarant le nombre de carapaces qui brillent la nuit quand on allume sa lampe torche dans une vieille souche, dans des écorces décollées, dans une cavité d'arbre. Il y a énormément de choses qui se passent et les insectes sont essentiellement nocturnes, ces coléoptères sont essentiellement nocturnes. C'est pour ça que deux jours, quand on balade en forêt, on ne voit pas grand-chose. Mais de nuit, c'est une autre histoire.
Alors, sur le tableau que j'ai devant moi et que j'ai imprimé d'ailleurs sur les pages du Parc national des Cévennes, il est quand même dit qu'il y a 889 nombres d'espèces qui ont été relevées dans le Parc national des Cévennes, mais apparemment sur les 50 000, ça ne fait pas beaucoup quand même.
Pour les coléoptères, je disais 10 000 pour la France, donc là on en aurait 800, à 10 000, on n'est même pas 10%, on est de l'ordre de 8 à 9%. Si on a la même diversité que pour la flore, on peut espérer avoir au moins 50% de la diversité française. Donc on pourrait avoir entre 4 et 5 000 coléoptères sans problème. C'est simplement que c'est un domaine très long où il faut faire appel à beaucoup de spécialistes qui sont tous très rares. Donc on a du mal à faire cet inventaire très vite. Il faut du temps.
Alors, à ce sujet, dans le jardin de la maison, tout à l'heure, on a vu une petite coccinelle. Et tu nous as dit, cette coccinelle, c'est une coccinelle asiatique. Comment est-ce qu'on la reconnaît?
Ah, la coccinelle asiatique, on dit qu'elle est très polymorphe. Elle a plein de formes différentes, plein de couleurs différentes, tantôt noire, entièrement noire, tantôt entièrement orangée, tantôt avec plusieurs taches. C'est assez problématique d'arriver à l'identifier. Alors, il faut du coup se concentrer sur l'avant, tout à fait ce qu'on appelle en jargon, oui, la tête, enfin, et sur le dessus de la tête. Regarder de face, tout simplement, et essayer de voir. En général, c'est un mélange de blanc et de noir. Et si vous voyez un W assez marqué, c'est une coccinelle asiatique, indépendamment derrière de sa coloration.
Et j'en suis témoin, c'est ce que j'ai vu après que tu m'aies donné ce petit secret. En fait, il faut regarder avec la coccinelle à peu près à 1 cm de ses yeux
Voilà, si on a
et
une
on y
loupe, c'est
arrive.
beaucoup plus simple quand même, parce que c'est un insecte qui fait à peine 5 mm de diamètre, donc c'est pas très gros. Alors, par rapport à des souvenirs naturalistes de 2018 et de tout début 2019, je voulais parler d'une enquête qui est peu ragoûtante, si on peut parler comme ça, qui concerne les crottes de genêtre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une genêtre? Une genêtre, c'est un petit mammifère qui se rapproche de loin de la taille d'un chat. C'est un peu plus petit qu'un chat, mais en fait, c'est la même famille que les mangoustes. Donc, ça a un peu rien à voir avec un chat. C'est pas du tout un félin. C'est différent du renard, c'est différent du blaireau. C'est vraiment un groupe un peu à part et qui vraisemblablement est arrivé en France, sans doute introduit par l'homme, parce que c'était un animal qui, à l'époque, remplaçait largement la fonction du chat aujourd'hui, qui est de chasser les rongeurs. Donc, il était élevé par les hommes pour chasser les rongeurs.
Mais quelle était son origine au
Ah
départ?
ben, probablement Afrique du Nord et sud de l'Espagne, mais il s'est largement réparti jusque le nord de la Loire. Et aujourd'hui, cette genêtre, elle est relativement bien connue sur la moitié sud de la France, mais on a encore des incertitudes sur son régime alimentaire, ce qu'elle mange exactement. Et là, il y a un chercheur qui s'intéresse particulièrement à son régime alimentaire, qui nous a proposé de l'accompagner dans ses recherches, donc de tout simplement, il nous demandait d'aller ramasser des crottes de genêtre. Donc, enquête effectivement peu ragoûtante pour nous d'aller ramasser des crottes, mais en échange de quoi, il nous donnait très exactement les identités de toutes les bêtes, de toutes les proies que la genêtre avait mangées. Le crottier de genêtre, c'est quelque chose de très particulier parce que la genêtre, donc j'ai oublié de préciser, ça ressemble à un chat gris, si on veut, avec des taches noires et une très grande queue qui fait 30 à 40 cm, qui est rayée de noir et de gris. Donc c'est un très bel animal qu'on voit, pour ceux qui ont de la chance, la nuit dans les phares d'une voiture. Et sinon, c'est un animal très discret, mais qui est peu discret par rapport à ses crottiers. C'est-à-dire, quand on connaît la façon dont il exploite son terrain, il a tendance, sur les rochers qui dominent son territoire, notamment des rochers qui sortent un peu d'un versant, il va avoir tendance à marquer son territoire en posant des crottes qui peuvent être très nombreuses à cet endroit-là. On a des crottiers qui font plus d'une centaine de crottes et qui sont très vieux, sur des endroits un peu stratégiques, où là, c'est peut-être même plusieurs genêtres qui viennent. Donc c'est assez facile à trouver quand on a l'œil pour retrouver des crottiers. Donc, c'est des grandes crottes qui sont plus grandes que celles d'un chat, hein, qui font 10 à 15 cm de long, assez souvent terminées par un pinceau de feuilles, et qui sont pleines de restes de poils et d'os. Donc, elles mangent, et c'est là où on a découvert, elles mangent énormément d'espèces différentes. Alors, elles mangent un paquet de rongeurs. C'est que le monsieur Riol, hein, qui nous a détaillé l'ensemble de ses proies. Donc des loirs gris, des campagnols roussâtres, terrestres, des mulots sylvestres, des mulots à collier, des souris, des musaraignes. Des oiseaux aussi, comme des merles, des grives musiciennes, des rouges-gorges, tourterelles turques, gros becs, geais. Également des reptiles comme la couleuvre, le lézard vert, la grenouille verte, grenouille rousse. Des insectes comme du criquet, des grillons, des sauterelles, des coléoptères. Également un frelon européen, un pince-oreille. Et aussi quelques fruits, raisins, cerises, figues, sorbes, nèfles, merises, mûres, enfin énormément de très très finalement omnivores, beaucoup d'espèces. Donc c'était très épatant et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces crotiers, on a essayé de les disséminer sur une grande partie du territoire pour avoir une sorte d'échantillonnage de qu'est-ce qu'on a finalement comme micro-mammifères, c'est-à-dire comme rongeurs sur ce territoire. Et plutôt que de piéger les rongeurs, qui est très coûteux en temps, là finalement la GEDET le fait pour nous. Elle piège les rongeurs. Alors on n'est pas sûr que la GEDET sélectionne tous les rongeurs possibles qu'il y a sur son territoire, mais elle en sélectionne un grand nombre. Et donc, grâce à ces crottes et à cette étude sur les crottes de Genette, on va avoir une très bonne idée de ce qu'on a comme rongeurs sur tout ce territoire. Toute question de méthode, entre guillemets, de prospection, de façon de changer de point de vue, voilà, on ne voit rien le jour dans une forêt, ben on vient la nuit avec une lampe torche, ah, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas obligé de venir avec une lampe torche aussi, on peut aussi beaucoup écouter la nuit comme le jour et on voit ou on entend beaucoup de choses.
Ça s'est fait déjà à Florac, ça s'est fait à Saint-Privat-de-Valongues, à Arfi, Genolac et bien d'autres encore. Donc voilà, au travers de cette ambition encore, je pense, pour de nombreuses années, de découvrir de quoi est fait le parc national des Cévennes, eh bien, on a découvert des choses très, très différentes les unes des autres. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.